France Culture, Cal, Zoé Sfez.
I thought I heard a stranger. I'm Bill.
Hello, I'm Henry.
The Duke will die before these eyes, and he'll know that it is I, Pan Vladimir Harkonnen, who encompasses his doom.
Excellence. 1,400 horsepower pays off.
France Culture. La série musicale. Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission amoureuse et éplorée ce samedi. Une heure de radio sur la musique, en musique, en rêve et en hommage. Ce samedi, c'est la série musicale sur France Culture. C'est la réunion du son et de l'image qui constitue le cinéma. Chaque son doit soutenir une scène, lui donner de l'ampleur. Une pièce est, disons, de 9 mètres sur 12. Mais dès que vous y introduisez du son et même de la musique, vous pouvez donner l'illusion soudain d'un espace géant. Les espaces qu'il a créés, ce sont de l'ordre du rêve, de l'obsession, de la nostalgie. Des espaces familiers qui soudain deviennent étranges, terrifiants. Ces espaces américains, sublimes, de routes nocturnes, de conifères rassurants, de villas californiennes, où traîne, inopinément, une oreille coupée, un donut, une femme nue, une tasse, un corps en décomposition, des inspecteurs, des gangsters, des saxophonistes, des actrices en perdition. Tous ces espaces, on les oubliera jamais. Et peut-être qu'ils nous ont aimés. Ils nous ont permis d'aimer l'Amérique. Et pour cela, on peut évidemment remercier l'immense David Lynch, qui nous a quittés, alors si son cinéma, dont on attendait le retour désespérément depuis Inland Empire en 2006, nous manquera à jamais. Il nous reste ses films, bien sûr, mais aussi sa musique. Car on le sait, David Lynch était d'abord et avant tout un peintre, c'est sa formation initiale, et c'est ce qu'il a continué à faire d'ailleurs, sa pratique la plus continue tout au long de sa vie et jusqu'à la fin. Mais il est aussi, c'est notre thèse et pas qu'à nous, l'un des musiciens les plus importants du siècle. On l'oublie trop souvent, David Lynch était à la fin de sa vie un patron de label, un musicien, un producteur, avec à son compte 9 albums en son nom propre ou avec des groupes avec lesquels il s'est même produit sur la scène française de l'Olympia, moment important de sa vie selon lui, aussi d'une dizaine de projets musicaux pour la scène ou pour l'image. Alors c'est plutôt à la quarantaine que la musique est devenue importante dans sa vie, mais c'est la discipline dans laquelle il a été finalement le plus prolifique au cours de ses 20 dernières années, et de loin. Et même si sa carrière de musicien a commencé tard, la musique c'est en fait un pilier de sa création, depuis le tout début, non seulement de sa carrière, mais aussi de sa vie. Parce que chez Lynch, c'est la musique qui suscite les images, et pas l'inverse. En témoignent les bandes originales de ses 10 longs métrages et de sa série culte Twin Peaks, fruit d'une collaboration, disons même d'une fusion, avec son ami, son frère, son co-créateur, l'immense Angelo Badalamenti, des bandes originales que vous connaissez très bien. Il y a donc cette musique créée pour ces films, mais aussi ces chansons du répertoire américain qui l'obsèdent tellement qu'ils font partie de ces films. Ces chansons, elles les suscitent, elles les dessinent. Ces chansons de son enfance, mais aussi celles qu'il a découvertes avec la curiosité insatiable qui le caractérise, de Bobby Vinton à Chris Isaak, d'Elvis Presley à Rammstein, Lynch, dialogue avec les musiciens, les musiciennes de son temps. Alors impossible, en une heure, de faire le tour de cette relation folle que Lynch entretient avec la musique, mais une chose est sûre. Écoutez, cette playlist lynchienne, et donc cette émission, c'est se plonger dans son monde. C'est comme un raccourci de l'ambiance visuelle des espaces que crée Lynch, c'est-à-dire une Amérique qui est tour à tour séduisante, nostalgique, celle du blues, des belles femmes, des ballades, des voix angéliques, habitée en souterrain par des rêves terrifiants, dérangeants, une nation lourde, vieille, qui détruit les êtres. David Lynch, musicien du rêve, c'est tout de suite dans la série musicale. Climax dans la voix de Julie Cruz, Falling in Love. Vous écoutez Falling, un titre extrait de son album Floating into the Night, un album où c'est David Lynch qui écrit les paroles et c'est le merveilleux Angelo Badalamenti qui compose la musique un an plus tard. Cette chanson va devenir la chanson-titre d'une certaine série américaine que David Lynch, ce cinéma d'avant-garde, arrive à signer et à produire pour la télévision américaine. J'ai nommé la mythique série Twin Peaks, qui a certainement permis à toute une partie des spectateurs de David Lynch de le découvrir. C'est sa grande rencontre avec le grand public, diffusée entre 90 et 91, avec deux saisons seulement. Une série qui a profondément marqué à la fois les Américains, les amateurs de cinéma, notamment grâce à sa bande originale, et ce titre « Falling », dont la langueur, la nostalgie, la douceur apparente ne masquent pas quelque chose d'à la fois presque fataliste et terrifiant. Twin Peaks, qui s'intéresse à la disparition de la fatidique Laura Palmer, qu'on invite tous ceux qui ne le connaîtraient pas à le découvrir. Alors c'est sans doute l'un des thèmes musicaux associés à David Lynch les plus célèbres, ce Falling de Julie Cruz et cette bande originale composée par Angelo Badalamenti. C'est le moment où David Lynch sans doute entre en possession le plus de ce médium fou qu'est la musique qui est presque insaisissable et qui pourtant est fondamentale dans ses toutes premières créations et même dans ses tout premiers courts-métrages qu'on vous invite à découvrir notamment sur le site Criterion qui les a tous republiés à l'occasion de la disparition de David Lynch, des courts-métrages expérimentaux quand il sort d'école où la musique est déjà très présente. Et les images belles et terrifiantes le sont tout autant. Pourtant, David Lynch, en réalité, est obsédé par la musique depuis sa plus tendre enfance. Cette enfance dans une famille américaine de la classe moyenne, qui est sans doute la matrice de tout ce qu'il produira plus tard. Une enfance apparemment heureuse, marquée par la normalité de la vie américaine de ces années 50-60, l'American Way of Life. À cette époque-là, les États-Unis sont dans leur période phare et pourtant, quelque chose en sous gronde, quelque chose ne va pas. On ne saura jamais vraiment ce qu'a vu David Lynch enfant. Dans un excellent documentaire paru en 2015, David Lynch le dit, il l'a dit à de nombreuses reprises, jouant dans son jardin, un jour il vit dans la maison des voisins d'en face une image terrifiante qui l'a marqué à jamais. Et c'est de là, bien sûr, sans doute, que vient toute cette imagerie, ce cinéma qui fait de lui, selon bien des critiques, le surréaliste le plus populaire de tous les temps. David Lynch, qui a été marqué par des images étranges de cette Amérique en apparence très lisse, qui a été marqué aussi par l'arrivée d'un homme fondamental dans sa vie, j'ai nommé Elvis Presley. Il découvre son Mystery Train en 56, il n'a que 10 ans. J'ai eu la tête en feu, j'ai décidé de rester toujours à l'écoute des musiques qui planeraient autour de moi. Ce n'est absolument pas un hasard, si c'est bien du Elvis Presley qu'il met dans la bouche, dans la voix de son protagoniste, interprété par Nicolas Cage dans Sailor and Lola, Wild at Heart en anglais, un film qu'on affectionne beaucoup. To read me like a fool, to read me mean and cruel, but love me, break my faithful heart. On ne dit pas assez à quel point Nicolas Cage est un immense chanteur, on peut le dire. On avait choisi de vous donner à entendre ce Love Me car l'autre titre repris dans Sailor et Lula, c'est bien Love Me Tender, Love Me Sweet, toujours de ce cher Elvis. Elvis dont David Lynch était fan, il pouvait parler pendant des heures des débuts du King of Rock and Roll. Fascination forte pour cette figure mythique des États-Unis, de ces États-Unis des années 50-60 dans lesquels David Lynch va grandir. Ce qui explique aussi qu'une très bonne partie des films qu'il jouera et ensuite de la musique qu'il produira, inspirée notamment du blues, tourne autour en fait de cette période, de la manière dont il l'a vécu, dont il la reçoit. Pourquoi cette musique des années 50-60 l'obsède? Rebecca Manzoni lui avait posé la question en 2010 et voilà ce qu'il en disait.
Cette musique pour moi, c'est la musique qui a révélé quelque chose et qui n'a jamais été vraiment égalée. Je crois qu'au début du rock'n'roll, il y avait une force qui n'a jamais été surpassée.
La bande originale d'Eraserhead, le premier long métrage de David Lynch, un tout jeune David Lynch qui a reçu une bourse de même pas 10 000 dollars pour faire un premier long métrage qui est tout aussi expérimental que ses premiers courts métrages. Un film où la bande originale, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas l'identité sonore est absolument fondamentale, hein, on peut le dire, c'est un film qui se conçoit avec la présence étouffante du son, une bande originale, un travail sur le son que Lynch a pensé avec le designer sonore Alan Spetz, qui essaye, qui passe une année avec Lynch, hein, on est toujours sur des processus extrêmement longs, à travailler sur cette atmosphère sonore qui est constituée, comme vous l'entendez ici, essentiellement de bruits de machines. Parce qu'Eraserhead, on vous invite à le découvrir parce que c'est littéralement impossible de vous résumer ce film, une espèce d'horror movie avec pour thème l'adultère et une métaphore avec un insecte, le tout dans le décor industriel, des décors industriels lourds, obsédés, dit Lynch, par la saleté et des souvenirs d'une période de sa vie qu'il avait passée à Philadelphie, où les espaces, disait-il, apparaissaient comme des rêves. Eraserhead, on a déjà ce travail sur le son, il n'a pas encore fait David Lynch, cette rencontre fondamentale avec celui qui sera son grand acolyte, j'ai nommé évidemment Angelo Badalamenti. Il n'empêche que la conception des films est née toujours sonore, lui qui admire, qui révère la plupart des réalisateurs qu'il aime, notamment Robert Altman, en tant qu'ils sont d'abord et avant tout des cinéastes du son, l'expliquait toujours chez Rebecca Manzoni en 2010. Ces films lui apparaissent comme des idées, comme des visions, déjà avec un titre. Ce titre fait partie de l'identité du film et avec une identité sonore.
Yes, a film is born with its title.
Oui, un film naît avec son titre.
I think it is in the sound.
Je crois que c'est une histoire de sonorité. Si vous dites
you say your name, Rebecca,
votre nom,
it has a sound.
Il a une sonorité.
And they say all of creation,
on dit que toute la création
comes from sound.
Vient du son.
Vibration, vibration.
Des vibrations.
So sound is the sound of a name,
le son d'un nom,
coupled with,
avec aussi
maybe the look of the letters,
la typographie des lettres, leur aspect.
But they conjure the sound.
Ça, ça révèle un son.
They conjure the sound.
Un son.
Le thème de Dune, Prophecy, on ne va pas revenir sur cette tentative qui est en fait un film de commande de Lynch de mettre en image le chef-d'œuvre qui a depuis été adapté de manière totalement différente par un Canadien, Dune, Entreprise Impossible. Alors certains détestent ce film, David Lynch lui-même ne l'aime pas beaucoup. Notre réalisateur Thomas Jost, lui, l'aime bien. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce film, sur lequel Lynch n'a pas du tout autant la maîtrise que sur tous les autres, c'est cette participation de Brian Eno, ici, dans le thème principal. David Lynch est légèrement traumatisé par ce film qui non seulement ne lui ressemble pas, mais qui en plus a coûté énormément d'argent et est un échec aussi bien critique que public. Il reviendra de ce fait ensuite à devoir se battre pour voir ses films. Son prochain film sera sans doute à nouveau son plus personnel. C'est un film dans lequel il va rencontrer, trouver une espèce de rythme de croisière. C'est à la fois là qu'il trouve sans doute le bon dosage entre ce qui vient de lui, son approche expérimentale et une imagerie, des histoires, des personnages qui lui permettent de rencontrer un grand public. C'est aussi grâce à ce film qu'il va rencontrer son camarade, Angelo Badalamenti. Ce film s'appelle Blue Velvet, un superbe titre, velours bleu, qui vient absolument directement de l'écoute d'une chanson, le fameux Blue Velvet, du très crooner Bobby Vinton.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, 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 precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Blue Velvet, Bobby Vinton, que je n'aimais pas particulièrement, mais qui m'a fait penser à différentes choses, dit David Lynch. La musique qui m'inspire tout le temps quand j'écris, elle fait naître des images, et quand je me tourne, il m'en arrive d'en faire écouter aux acteurs pour les plonger dans un état particulier. On va revenir évidemment sur la manière dont David Lynch travaille concrètement avec la musique, et ce sera d'autant plus vrai à partir de ce film, donc inspiré par une chanson qui est reprise dans le film, qui n'est pas jouée dans cette version originale de Bobby Vinton. Un film qui est vraiment, on va dire, suscité non seulement par cette chanson, mais aussi par une autre. Song to the Siren, c'est une chanson écrite par Tim Buckley, le père de Jeff. On lui a déjà consacré une émission. Une chanson dont David Lynch va entendre une reprise à la radio par un groupe. Il devient littéralement obsédé par cette chanson qu'il veut absolument mettre dans son film. Tant en réalité, il a écrit une partie des scènes et des personnages avec le son en tête de cette chanson, mais il n'arrive pas du tout à obtenir les droits. Il va passer des mois à se battre pour ses droits et il n'arrive absolument pas à les trouver. C'est là que il va rencontrer plusieurs musiciens pour essayer de voir s'ils arriveraient à reproduire le son de cette chanson sans la chanson et sans le groupe. Et c'est comme ça qu'on le met en contact avec Angelo Badalamenti, un compositeur de musique d'origine italo-américaine. Angelo Badalamenti, c'est vraiment l'italo-américain dans toute sa splendeur, qui lui est issu plutôt du jazz. Et qui est absolument désespéré puisqu'il ne connaît absolument pas la New Wave, qui est le son de cette reprise qu'on vous donne très courtement à entendre.
On the floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing.
Song to the Siren, une chanson à la fois diaphane, inquiétante, profondément sexuelle. Hein. C'est aussi ce qui intéresse David Lynch dans ce film Blue Velvet, sur le fétiche, sur toute une foule de sentiments humains et toujours étranges. Alors, donc, David Lynch fait le tour de tous les gens qui pourraient l'aider à reproduire quelque chose qui serait dans l'esprit de cette chanson dont il ne peut pas avoir les droits. Il rencontre Badalamenti, qui dit « Je trouvais les paroles qu'avait écrites David Lynch absolument nulles. Je lui ai dit poliment, David, tes mots, c'est très bien, mais il manque de forme. Ne t'inquiète pas, a-t-il répondu, fais en sorte de produire quelque chose d'intemporel, de cosmique, comme l'océan, la nuit. » Comme les moments où on entend le souffle du vent. Alors Angelo Badalamenti arrive à produire une forme de partition que David Lynch trouve très intéressante, et là ils se mettent en quête d'une voix. Angelo Badalamenti, qui a beaucoup travaillé avec une chanteuse plutôt de rock qui s'appelle Julie Cruz, avec laquelle il collabore, lui demande son secours, lui demande d'envoyer plusieurs chanteuses. 1, 2, 3, 10 sont auditionnées. David Lynch n'est jamais satisfait du résultat, tant c'est si bien que Julie Cruz, agacée, propose elle-même de faire un essai. elle, pour le coup, qui n'est pas du tout célèbre hein, pour une voix qui serait pure ou diaphane, va essayer de se préparer. Et c'est là qu'elle enregistre en studio avec David Lynch. Et soudain, eh bien, il semble que ça fonctionne.
She's got a great voice and when she sings,
Julie a une voix extraordinaire. Et quand elle se sert de cette voix d'une manière très douce, c'est exactement ce que le docteur avait prescrit. En fait, la musique fonctionne à ce moment-là parce qu'elle produit des images dans mon esprit. Et si moi, j'arrive à construire ces images dans ma tête et que la musique marche toujours avec cette sensation, j'ai l'idée que les spectateurs pourraient l'avoir eux aussi. Et en fait, c'est juste une voix, une idée. Il faut accepter de suivre ce chemin qu'elle ouvre et absolument pas d'en faire une interprétation intellectuelle. Mysteries of Love, l'une des collaborations de, évidemment, Julie Cruz, David Lynch et Angelo Badalamenti. C'est lui le compositeur. Cette collaboration va être tellement fertile hein, qu'on retrouve le trio à la fois dans la bande-annonce, la bande originale de Sailor et Lula. Ils vont carrément même, et ça on le sait pas souvent, créer un spectacle, la symphonie numéro 1, The Dream of a Broken Heart, le rêve d'un cœur brisé, qui va être joué à la Brooklyn Academy of Music. Ils vont composer plus d'une vingtaine de morceaux. C'est Julie Cruz qui interprète les morceaux sur scène avec une scénographie de David Lynch qui introduit toute une foule d'images, Julie Cruz qui apparaît, qui chantante depuis le coffre d'une voiture, des images de son film suivant, Sailor et Lula. Julie Cruz qui est restée une collaboratrice pendant très longtemps de David Lynch, qui ensuite va continuer à avoir des relations assez fortes avec plusieurs chanteuses à la voix très éthérée. Si on a le temps, on écoutera ses dernières collaborations avec la chanteuse Christa Bell, lui qui avait été très inspiré par notamment la musique d'Hildegarde de Bingen, qu'on vous invite à découvrir, compositrice du Moyen-Âge auquel France Culture a consacré une grande traversée, qui est spécialisée hein, dans ses voix très éthérées. Julie Cruz qui racontait notamment à l'occasion de ce spectacle symphonique Number One, The Dream of a Broken Heart, ce qu'elle avait cherché à faire hein, la première fois qu'elle avait rencontré David Lynch, à quel point ça avait été difficile pour elle de travailler sur cette voix, mais à quel point elle était heureuse finalement de l'avoir fait. Sa vision surtout de ce qu'elle pense que David Lynch cherche quand il co-compose de la musique.
I tried to change the key.
J'avais tout fait pour que cette mélodie marche, j'ai tenté de changer la tonalité. Et la musique n'avait aucune métrique, c'était cette très spacieuse, très vaste mélodie, structure, jusqu'il n'y avait rien. C'était quelque chose de très sinistre. Et puis David voulait que je la chante avec un accent, mais en fait sans accent. C'était le genre de direction qu'il me donnait. Vous savez, moi je crois que c'est une vraie tentative de la part de David de créer quelque chose de très intime et romantique. Et d'ailleurs, en surface, c'est ce à quoi ça ressemble. Ce qui se passe en dessous, répression, paranoïa, fétichisme, obsession. C'est pour ça que rien dans les musiques que fait David n'est évident. Il y a toujours quelque chose qui se passe en dessous de la mélodie. La symphonie numéro 15 de Shostakovich, c'est la toute dernière symphonie composée par ce compositeur russe émigré aux États-Unis, où vraiment beaucoup de choses aussi affleurent sous la surface. La symphonie numéro 15 de Shostakovich, Lynch l'a écoutée et l'a fait écouter à tout le casting et tout le tournage de Blue Velvet, ce qui vous donne aussi une idée de ce film tiraillé entre le Bobby Vinton tout coulant, tout merveilleux, et ce Shostakovich qui gronde en dessous. David Lynch qui, en fait, façonne les films et façonne les images, façonne le rythme de son film par des images qui lui viennent de musique. C'est Shostakovich ici, on connaît son obsession aussi pour un Samuel Barber, par exemple. Il l'expliquait toujours à la radio.
Ça vous arrive d'écouter de la musique sur les tournages ?
Yes. I listen to music.
Oui, j'écoute de la musique.
Many ideas come from music.
Beaucoup d'idées viennent de la musique.
If you hear a
si vous écoutez de la musique,
and ideas come for cinema,
si les idées qui vous viennent sont du cinéma,
then that piece of music is critical.
Alors ce morceau de musique est essentiel au tournage de la scène qui l'a inspiré.
So, lots of times, if the music,
bien souvent,
if it's at this situation,
dans cette situation,
I'll play the music.
On joue sur le plateau la musique pendant la scène. Je donne au cadreur ou au directeur de la photo la même musique. Et je crois que pour un mouvement de caméra qu'il devra exécuter, si la musique est dans sa tête déjà, le mouvement sera juste. Le dialogue aussi, les mouvements des comédiens. La musique leur donne une très bonne indication pour être juste.
La danse d'Audrey dans Twin Peaks, où cette jeune femme brune, très bien coiffée, une amie de Laura Palmer, celle qui a disparu. Ce trémousse dans un diner, cigarette à la main, une image très jolie, très douce. Et pour autant, vous l'entendez, la musique d'Angelo Badalamenti, qui part sur cette espèce de boogie un peu lent, va commencer à dissonner sérieusement de plus en plus à mesure que la partition avance. Alors on l'a entendu, hein, on voit comme David Lynch se sert des chansons existantes de celles qu'il a entendues dans la première partie de sa vie pour nourrir son cinéma, nourrir son sens de l'image. Une fois qu'arrive cette rencontre fondamentale dans sa vie, celle d'Angelo Badalamenti, en fait il va pouvoir créer la musique et avancer en même temps qu'il crée les images dans sa tête. Et ça, c'est un moment magique dans la vie de David Lynch, qui, donc après avoir cette saisie de ce qu'il entend, va pouvoir commencer à co-façonner des images, toujours avec la musique à l'origine. Et donc, on a le plaisir de vous donner à entendre une archive qu'on vous avait déjà donné à entendre dans la série musicale. Une archive incroyable où Angelo Badalamenti, quand même ce petit génie du cinéma, se remémore à la télévision américaine en 1995 la manière dont il a créé le thème de Laura Palmer pour Twin Peaks. Il nous rejoue cette séance où David Lynch lui donne à voir des images, lui raconte les images qu'il a en tête. Angelo Badalamenti compose la musique et c'est la musique qui est en train d'être composée qui va nourrir l'image.
David would sit right over here, right to the right of me.
David s'asseyait juste ici à ma droite. On mettait un enregistreur sur le synthé qui enregistrait tout. David s'asseyait et il me disait,
just talk to me.
Angelo.
And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods.
Nous sommes dans une forêt sombre maintenant.
And there's a soft wind.
Il y a un vent très doux qui passe entre les sycomores.
And there's a moon out and
la lune brille fort. On entend des bruits d'animaux derrière.
And you can hear the hoot of
il y a le ululement d'une chouette.
And you're in the dark woods, you know, just get me into that.
Emmène-moi là-bas.
Beautiful.
Dans cette obscurité splendide.
Soft wind, and I started playing.
J'ai commencé à jouer ça. Et David m'a dit, Angelo, c'est magnifique, c'est une bonne ambiance, mais est-ce que tu peux le jouer un peu moins vite? Plus doucement, ok. C'est ça, c'est le bon tempo, ça. Continue doucement. Continue comme ça pendant un moment.
Et
je pouvais voir sur le visage de David qu'il était en train de visualiser ce qu'il me décrivait. Et là, il me dit, ok, Angelo, maintenant, on doit opérer un changement. Car juste derrière les arbres, il y a cette jeune fille très solitaire. Elle s'appelle Laura Palmer. C'est très triste ce qu'il y a en elle. Est-ce que tu peux essayer de trouver ça? Et il dit, mais c'est ça. C'est très beau. Je peux la voir. Elle marche vers la caméra. Elle s'approche. Continue à construire ça. Construis. Elle s'approche. Faut que tu arrives à un genre de climax. Oh, mais oui, c'est ça. C'est si beau. Angelo, c'est en train de me briser le cœur. J'adore ça. Continue. Mais elle commence à s'éloigner. Descends. Continue de descendre. Descends. Retournons dans la forêt sombre. C'est ça. Doucement. Continue. Très mystérieux, très doux.
David got up.
David s'est levé.
Gave me a big hug.
Il m'a fait un gros câlin.
Angelo.
Il m'a dit Angelo.
That's Twin Peaks.
Ça y est, j'ai Twin Peaks.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Thin sky, the man changed his hands held high. The cruise me yard, cruise me bay. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Lonely dawn, no return.
On souffre de couper David Bowie, évidemment, toujours David Bowie et I'm Deranged, l'un des morceaux d'une des bandes originales les plus dingues des films de David Bowie, à savoir la bande originale de Lost Highway, où on retrouve autant Rammstein, ce groupe que David Bowie vient de découvrir et qui va participer d'ailleurs à faire connaître, que Marilyn Manson qui reprend I Put a Spell on You, qu'une version angoissante et instrumentale d'Insensate, la grande bossa d'Antonio Carlos Jobim, un film qui met en scène... Qu'est-ce qu'il met en scène ? Il met en scène un saxophoniste, justement, un saxophoniste qui s'appelle Fred Madison et qui, comment le dire, vit des expériences d'interchangement, on peut le dire, avec des figures très angoissantes qu'on affectionne particulièrement, largement inspirées de l'expressionnisme allemand, de l'impressionnisme allemand, de l'expressionnisme allemand. Un film donc où la musique est omniprésente, notamment parce qu'il y a des morceaux évidemment contemporains, mais aussi parce que ce saxophoniste et cette musique, eh bien David Lynch peut la faire avancer, la faire composer avec Angelo Badalamenti. Il l'expliquait justement. Cette musique-là, ensuite, elle sera un peu à la base de ce qu'il fera ensuite, lui, quand il se mettra à faire de la musique. Ce personnage très intéressant de Fred Madison, qui est son héros dans Lost Highway, eh bien, David Lynch l'a travaillé, l'a pétri, grâce notamment à cet apport de la musique.
You know, the gentleman, Bob Shepard, I think, was the...
Pour ce qui est de Fred Madison, c'est Bob Shepard qui jouait son rôle dans le film.
I told him this sax is going to be crazy.
Dit, ce sax va devenir complètement fou, presque malsain. Il a fait une première prise, je suis revenu en cabine pour écouter et je lui ai dit je peux pas t'entendre, non seulement ça mais je commence à m'endormir. Alors, il y est retourné, il a poussé son sax aussi fort qu'il pouvait. Je lui ai dit, écoute, tu sais, Bob, je suis toujours en train de m'endormir. Tu joues d'un saxophone silencieux, autant le jeter à ce moment-là. Alors, il m'a regardé avec des yeux exorbités, on a bien rigolé, et il y est retourné une dernière fois, il n'avait probablement jamais joué aussi fort. La musique, parfois, c'est quelque chose de contagieux. Et quand ça commence à coller, ça donne des choses merveilleuses. Quand on commence à se dire, ça y est, il y a du groove, quand tout le monde se sent bien ensemble, là, on commence à construire quelque chose et, bon, c'est magique, c'est ça que j'essaye de faire.
Bob, une chanson qui s'appelle 911, et c'est bien David Lynch, musicien que vous écoutez ici dans son duo avec un certain John Neff. Blue Bob, c'est un groupe que David Lynch va monter après avoir créé son propre label. C'est absolument pas sa première expérience musicale, mais là vraiment il va se lancer, travailler pendant des mois avec son acolyte John Neff pour créer ce groupe dit de blues industriel, où il travaille donc sur la matrice du blues mais en intégrant encore une fois des imageries sonores à la fois qui empruntent au rock'n'roll mais aussi au heavy metal et évidemment à cette, toute cette esthétique industrielle paranoïaque de fiction noire qui habite David Lynch. David Lynch qui, avec John Neff, va monter sur la scène une seule fois. C'était en 2002 pour un concert à l'Olympia. En réalité, sa rencontre avec Angelo Badalamenti, qui est la dernière personne avec qui il a fait de la musique juste avant que Badalamenti ne disparaisse en 2021, va vraiment être la matrice qui va lui permettre de rentrer en contact avec la musique, comme il le racontait.
I started, you know,
grâce à Angelo, j'ai commencé à produire de la musique, à écrire des paroles, à travailler avec des musiciens, et à finir dans un studio. Jusqu'à ce que finalement je construise mon propre studio. Et c'est mon vieil ami John Neff, co-auteur de Blue Bob, qui a conçu ce studio. Donc on a commencé à expérimenter, puis soudain on s'est rendu compte que c'était un album qui avait été réalisé comme ça. Ensuite est venue cette possibilité de faire cet album, ce concert à l'Olympia. Et depuis le jour où ça a été décidé, j'ai vécu un cauchemar. C'est une vraie tourmente, un tourment en tout cas, de monter sur scène. Jouer devant une foule, ça ne m'était jamais arrivé avant. Je m'étais déjà trouvé devant des gens, mais pas pour faire de la musique. Et ce que j'ai découvert, c'est que le public est capable de souder les musiciens d'un groupe. Et je me souviens que, pendant le concert, le visage de mes musiciens exprimait un ineffable bonheur. On était vraiment ensemble.
Ce concert à l'Olympia où David Lynch chantait mais jouait aussi de la guitare, une guitare dont il n'était pas un grand professionnel mais dont il disait qu'il aimait la faire chanter, crier, hurler, lui qui avait aussi fait de la trompette dans sa jeunesse. Alors vous entendez hein, à quel point en 57 minutes il est impossible de faire le tour de l'apport musical de David Lynch qui a aussi fait deux albums électro absolument délicieux qu'on n'aura pas pu vous donner à entendre. On aurait aimé vous donner à entendre évidemment Roy Orbison et toutes ses chansons, Chris Isaak, les Cocteau Twins, Au revoir Simone, tous ces gens que Lynch a aimés, que parfois il a aidé même à faire découvrir. C'était impossible de le faire, mais on vous invite vraiment à continuer à diguer tout ce que cet homme nous a apporté. C'est incommensurable et combien il nous manquera. On a envie de vous quitter avec son expérience avec Christa Bell, l'une un album qu'il produit et qu'il donne à entendre d'ailleurs dans son dernier film Inland Empire, que certains n'ont pas aimé mais que nous on affectionne beaucoup, qui aura été un tel échec qu'il en restera traumatisé, il n'arrivera plus à monter de film derrière. Cet écho, cette voix, là encore, diaphane, comme un adieu à notre cher David. I sing this poem to you. On the other side, I see. David Lynch qui écrit les paroles, ce poème qu'il nous envoie depuis l'autre côté. J'espère qu'il nous enverra des bonnes choses de l'autre côté. Depuis l'autre côté, on en a besoin. Merci à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à Ludovic Auger, notre merveilleux technicien aujourd'hui, à Thomas Jost, notre réalisateur. On vous invite à vous abonner toujours au podcast de la série musicale, à le liker partout, mais on préfère toujours l'application de Radio France, Apple Podcasts, Spotify. Ça marche aussi. À la semaine prochaine.